Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Parentalité, l'émission où l'on prend le temps de réfléchir, d'échanger, de questionner la parentalité dans toutes ses nuances. Aujourd'hui, on parle des pères, ces figures essentielles, parfois oubliées, parfois mal comprises, mais toujours indispensables. Être père en 2025, c'est porter des attentes contradictoires. Être fort, sans être dur, sensible, sans être faible, présent, sans être étouffant. Et j'ai l'honneur de vous présenter tout de suite mon plateau. Alors Lassana, comment tu vas ?
Ça va super, et toi ?
Oui, ça va très bien. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es ? Est-ce que tu es papa, papa ?
Je m'appelle Lassana So, je suis préparateur mental, marié et père de deux enfants, deux garçons.
Eh bien, merci d'être venu de Bordeaux jusqu'à Paris, Lassana. Edgar, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Edgar Denis Nkouri, je suis chauffeur de bus, beau-père marié et beau-père d'une fille de 19 ans.
Merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Alissata, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Bonjour, donc Alissata Ndiaye, directrice régionale pour la Fédération GAMS, Paris-Île-de-France. Donc je suis maman de deux grands jeunes adultes, 26 et 23 ans, divorcés. Et plein de petites nièces et neveux.
Merci Alissata. Barberiche, qu'on présente presque plus sur cette émission. Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Barberiche, papa de trois enfants, marié. Et on va essayer de représenter et de faire honneur à tous ces pères capables.
Wow. Exactement, pères capables, le thème de cette édition. Les pères en 2025, entre fierté, pression et injonction, les modèles des pères ont profondément changé. Les pères d'aujourd'hui veulent être présents, aimants, actifs. Mais entre la passion sociale, la peur de mal faire et la difficulté de s'exprimer, aujourd'hui, on est là aussi pour vous mettre à l'honneur. Du coup, merci à tous d'être présents. À la maison, préparez-vous une bonne tasse de thé. C'est parti. Pour la première question que j'aimerais vous poser, c'est déjà dans un premier temps de savoir, pour vous, qu'est-ce qu'un père capable ? Parce que c'est dans l'air du temps, mère capable, mais un papa capable, quand vous entendez ça, père capable, à quoi ça vous fait penser ?
Un amant responsable, tout simplement.
Responsable ?
Ouais, je dirais la même chose. Bon, pour être franc, je ne connaissais pas ce terme, père capable. Je découvre.
Ouais, t'es trop vieux, 50 ans.
En même temps. Et donc, en même temps, il y a. Je ferais cette nuance entre. J'ai toujours eu des pères qui assument leurs enfants, et à contrario, d'autres pères qui ont, on va dire, démissionné suite à une rupture. Voilà, j'ai toujours eu ces deux cas de figure, donc d'où mon incompréhension de père capable, parce que malgré ce qui est véhiculé, dans la réalité, on voit plus de pères qui assument leurs enfants que de pères qui les abandonnent.
Mmh. Alissata ?
Je rejoins Lassana. La première chose pour moi qui est arrivée, c'est père responsable. Après, comme dirait Edgar... qu'est-ce qu'on met derrière capable et qu'est-ce qu'on met derrière responsabilité ? On n'a pas tous la même définition et c'est peut-être ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble.
Ouais, tout au long de cette émission, Barberiche.
Bon, pour ne pas être dans la redite, donc du coup, je pense que je rejoins Lassana et Alissata sur le responsable. Mais moi, je dirais sécurité affective, émotionnelle, financière. Je pense que ça regroupe tout cet ensemble-là. La sécurité. Moi, si vraiment je devais donner un mot pour essayer de trouver une définition, ce serait sécurité, et j'engloberais dans ce mot-là tout ce que j'ai pu vous citer précédemment.
Ok. Pour commencer, bah justement, on parle de parentalité, donc on parle aussi de nos enfants. qu'on les ait mis au monde ou qu'on soit responsable d'eux parce que justement on s'unit avec quelqu'un qui a eu un enfant, quelle émotion vous avez ressentie le jour où vous êtes devenu père, mère? Et pour aller un peu plus loin, pour toi Alissata, j'aimerais, si tu peux, que tu nous dises ce que tu as ressenti toi en tant que mère, mais de ta perception qu'a ressenti ton ex-conjoint justement à la naissance de votre premier enfant. Qui se lance?
Moi je me suis dit, ça y est, on est dans le bourbier. Parce que quand tu te mets en ménage, en relation, ou tu es en couple avec quelqu'un, vous devez vous gérer. En fait, tu te gères individuellement dans un premier temps. Même si tu es censé ne faire qu'un dans le couple, on va dire que ça reste quand même deux entités bien distinctes l'une de l'autre. Et dès lors que tu as un enfant, c'est la somme des deux. Et donc là, tu as vraiment un lien que tu ne pourras jamais casser avec l'autre. Et du coup, tu mets au monde un être qui n'a rien demandé et qui maintenant est là. Donc du coup, tu es obligé, je rejoins ce qu'on a dit en introduction, d'être responsable. C'est là où la responsabilité... je pense que moi, quand j'ai eu mon premier enfant, ma première fille, c'est peut-être là où vraiment le mot responsable a fait écho et a pris tout son sens. Je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah, là maintenant, tous mes faits et gestes, tous mes agissements ont ou vont avoir une répercussion, du coup, sur l'être qui vient de naître. Donc, ça m'a fait cogiter.
Moi, il y a eu deux temps. Il y a eu... du moins pour moi, comme pour le père des enfants, il y a eu un flot d'émotions inimaginable. Quand notre premier enfant est arrivé, donc avec leur père, on s'aimait très fort. On avait pris quand même le temps de réfléchir et de concevoir notre fils. Et quand il est arrivé, on a été noyés d'émotions. Là j'en parle, je le ressens encore, c'est quelque chose d'indescriptible et qui est unique. Donc on était déjà là à atterrir, de se rendre compte comment on pouvait aimer un être plus que celui avec qui on a fait l'enfant. Donc c'est un peu déstabilisant. Et prendre conscience symboliquement quand on porte cet enfant, mais dans les bras, que ce soit lui ou moi, de la responsabilité dans laquelle on s'engageait et à vie. Voilà, de voir ce petit être et de se dire waouh, on va l'aider à se construire et ça va être nos valeurs, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, qu'on va lui transmettre. Je crois que c'est à ce moment-là, lui comme moi, sachant qu'on avait 8-9 ans d'écart, qu'on s'est senti adulte. Ça a pris tout son sens.
La Sana ?
Oh, nous, on était contents. Ah ouais, bon, je parle comme le petit dernier de la bande ici, mais on était grave contents, et je pense que le déclic, ça a été quand on rentre à la maison, parce qu'habituellement, après une festivité ou quoi, à l'ancienne, tu rentres, t'as les parents qui sont là, qui s'occupent de tout, tu rentres, tu te reposes, quoi, tout simplement, et je pense que quand t'arrives à la maison... Après avoir fêté, entre guillemets, la maternité, l'arrivée, tout ça. Arrivé à la maison, là, tu te dis, en fait, tu peux dormir, mais il faut que tu aies un œil sur le petit être qui est là. Et du coup, là, tu réalises quand même que là, ça commence.
Le repos ne sera plus jamais le même.
Non.
Non. Ado, du coup, quand tu décides de t'installer, enfin, même avant... Quand la mère de ta belle-fille te présente sa fille pour la première fois, quelle est l'émotion? Comment tu vis les choses?
Ben, je me dis, c'est pas évident parce que la paternité, je sais pas ce que c'est. Je me dis, comment je vais faire, c'est pas ma fille. Donc il y a, déjà tout un lien naturel qui n'est pas là. Comment y a tout un tas de questions qui se posent. Comment on va construire la relation, comment je vais être perçu, voilà, c'est toute cette inconnue qui est un peu troublant quand même.
C'est un peu troublant, hein.
Oui, c'est un peu troublant. Ouais.
Finalement, le point commun que vous avez, c'est que ça reste troublant, en fait, l'arrivée d'un enfant dans nos vies.
Bah, alors, je mettrai un bémol. Je peux comprendre que pour eux, c'est la notion de responsabilité, elle est premium, tu vois. Mmh. Parce qu'ils se disent, c'est moi qui suis directement responsable. Ce côté-là, moi, il est un petit peu moins, parce que tout passe par sa mère. Mmh. Tu vois, je dirais, par rapport à mes co-voisins, il y a un allègement par rapport à eux. Après, je ne suis pas exemple de la notion de responsabilité. C'est-à-dire que chaque action que je serai amené à faire, comme dit Anne, aura des répercussions sur... d'autant plus que pour elle, au niveau de l'image du père, il y a un passif. Ça, je suis quand même...
conscient.
Ouais, de ça et attentif un peu quand même. Mmh.
Quelle image ou modèle de père vous ont influencé? Est-ce que vous avez été influencé déjà dans un premier temps par un modèle... tu vois, tu parlais justement de cette figure paternelle. Quelle image de père vous a influencé? Et là, c'est intéressant parce qu'on va voir le prisme de vous, les hommes, mais aussi le prisme d'une femme.
Moi, j'ai vécu une petite partie de ma vie avec un beau-père qui après a fui. Mais si je dois garder quelque chose, c'est son côté découverte, le fait de s'intéresser à tout, le fait d'avoir une culture générale, ça, c'était quelque chose de très important pour lui. Et je pense que c'est quelque chose que, du coup, j'ai eu et que j'essaye de transmettre au maximum à mes enfants aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait d'être cultivé, d'être curieuse, le fait de s'intéresser à plus ou moins tout pour pouvoir être à même à évoluer dans différents environnements, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué, je pense, de manière naturelle et involontaire, parce qu'on ne m'a pas dit « fais ci, fais ça », mais c'est juste en regardant un peu ce qui se faisait à la maison que maintenant je le suis et que j'essaye de le transmettre à mes filles. Après, il y en a trois. Elles ne sont pas forcément pareilles, mais je sais qu'il y en a au moins une qui est comme ça. Mmh.
Vous autres?
Moi, j'étais influencée par mon père et mon oncle. Ils étaient complémentaires. Mon père, de par sa posture, c'était quelqu'un qui était très jovial, mais qui incarnait beaucoup la culture, la tradition, la religion, donc toutes les valeurs qui véhiculent cela, le travail aussi. Et mais assez pas désuet, mais donc une époque assez ancienne, donc avec il est resté vraiment comme si qu'il était au pays. Il est arrivé en France, il a travaillé assez jeune, avec des cicatrices qui n'arrivaient pas forcément à verbaliser, de parler de ses parents, donc de mes grands-parents par exemple. Et à côté de ça, un oncle qui était assez jeune et très ouvert et qui apportait en complément toute cette ouverture, cette culture générale et était aussi protecteur vis-à-vis de moi. Donc de la manière dont il pouvait interagir les deux, de la manière dont il pouvait interagir avec moi ou avec mes sœurs, était essentiellement bienveillant. Et donc, dans ma construction d'adulte et de couple, j'avais une image assez, pas idyllique, mais assez bien façonnée de l'homme africain et multiculturel, parce que né au pays et arrivé en France assez jeune, vers une vingtaine d'années pour mon oncle et mon père, peu, pas loin non plus, et voir comment ce mixage pouvait être fait. Donc j'avais quelque chose d'assez, d'assez bien construit sur ce que je voulais, ou en tout cas ce que je percevais de l'homme.
Mmh. Asana.
Moi, je dirais que j'ai été, entre guillemets, formaté par un peu tout le monde, en fait. Tu prends un peu du père, un peu de la mère, un peu des oncles qui t'ont quand même accompagné en étant jeune. Et arrivé à être parent toi-même, tu te construis avec toutes ces parties cumulées. Mmh. Mais si je dois résumer sur une personne, je dirais ma mère. Mmh. Sur déjà la persévérance que j'inculque aujourd'hui à mes enfants, mais c'est surtout l'ouverture, comme disait tout à l'heure Barbery, c'est l'ouverture, d'être un peu touche à tout, avoir un peu de connaissances un peu partout, pour pouvoir être un petit poisson un peu dans tous les domaines.
Alissata, comment tu perçois, toi, la place du père? C'est-à-dire, dans un idéal ou pas, en tout cas, par rapport aux parents que tu accompagnes aussi, comment tu, pour toi, c'est quoi la place du père? Et je fais exprès de te poser la question à toi, puisque ensuite, on demandera aux garçons comment ils perçoivent ces injonctions aussi, ou en tout cas, comment ils vivent avec nos attendus.
Moi, j'ai une image. Moi, je vois, et encore plus maintenant, avec les nouvelles fonctions que j'occupe, le père, je le vois comme un arbre, un baobab, avec plein de branches. Et ces branches, c'est un peu ce que disait tout à l'heure en introduction Barberiche, c'est-à-dire cette sécurité, cet enracinement, et comment chacun de ses enfants ou de sa cellule familiale peut s'accrocher aux branches robustes et tout ce que cet arbre peut recueillir et donner, sa sève, son enracinement, sa force, sa bienveillance, toutes ses couleurs aussi en fonction des saisons. Aujourd'hui, moi, je rencontre des hommes. Alors, j'utiliserai pas le terme capable. Alors, c'est peut-être pas une histoire générationnelle, mais parce que capable de quoi? Voilà. Au même titre où la femme, elle est capable, ou la mère, elle est capable de quoi? Aujourd'hui, moi, ce que je rencontre, c'est des hommes qui sont prêts à tout pour s'occuper de leurs enfants et de les protéger. Comment ça peut être anodin? C'est-à-dire que un père qui accompagne son enfant, un père qui va donner le bain à son enfant, l'habiller, lui mettre de la crème, lui mettre du parfum, enfin bref, est-ce qu'il est plus capable parce qu'il est en capacité de le faire à partir du moment où lui-même, il arrive aussi à s'occuper de lui? Donc, est-ce qu'on a besoin de glorifier cela? Parce que pour nous, c'est naturel. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'un homme capable, c'est des hommes héroïques, je vais mettre des guillemets, parce qu'il a traversé vent et marée, traversé des frontières pour pouvoir épargner leur fille d'un mariage forcé ou d'une excision? Donc, tout dépend sous quel angle on le voit. Mais parmi les trois hommes, les trois pères qui sont là, ils seraient aussi certainement capables de mettre tout en œuvre pour protéger leurs enfants. Et tout est relatif en fonction du danger qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire qu'un enfant qui est en train de courir et qu'on sent qu'il va tomber et qu'il risque de trébucher et se blesser, même si on n'est pas le père de cet enfant, on va essayer de rattraper l'enfant, c'est instinctif, pour pas qu'il se blesse. En cela, est-ce qu'on va lui décerner une médaille ou se dire « waouh, c'est un homme capable ?» Non, pour moi, non. Donc, un homme, au même titre qu'une femme, qu'il est mis au monde, qu'elle est mise au monde ou qu'elle est, qu'il ait fait cet enfant, c'est pas ça le plus important. C'est qu'est-ce qu'il a envie de transmettre et comment il le transmet. Voilà, que ce soit son enfant de sang ou son enfant par alliance. Donc, moi, quand je vois ces hommes qui franchissent la porte du GAMS, ce sont des hommes qui sont déterminés à sauver leur fille ou à sauver leur femme.
Les garçons, est-ce que vous voulez réagir à ça ? Qu'est-ce qu'un homme capable ? Parce qu'en fait, père capable, on reprend un peu l'expression des petits, homme capable, homme qui peut gérer, m'acheter, me mettre sur mon petit trône de princesse, etc. Mais est-ce que ces hommes sont forcément des pères capables en devenir, si on garde leur terme ?
Moi, déjà, non, mais déjà, cette terminologie, homme capable, déjà, moi, ça vient souvent de femmes incapables. Déjà, elles, être des femmes capables.
Capables de quoi, du coup ?
C'est pour ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme la notion de réussite. Chez les gens et chez les autres, c'est pas la même. Donc, être capable de quoi ? Il y en a certains qui, pour eux, être capable, c'est ramener à manger sur la table, vous mangez, ça suffit. Il y en a d'autres, ça va être de pousser au maximum les enfants à faire des études et à réussir. Il y en a d'autres, ça va être de traiter sa femme comme une princesse et de tout lui acheter. Donc pour moi, c'est comme la notion de réussite, ça a différentes définitions. Maintenant, dans la bouche des jeunes, un homme capable, c'est quelqu'un qui a de l'oseille et qui, par son oseille, me met bien, pour prendre leur terme. Mais moi, ce n'est pas du tout ma conception, parce que moi, je pars d'un principe que, en tout cas moi, l'argent, ce n'est pas forcément la chose principale dans mon foyer. Donc, moi, je n'adhère pas du tout à leur mindset et leur philosophie. Et pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, un père capable, c'est une personne qui est là dans les bons, les mauvais, et qui veille à sa famille.
Mais excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu ne penses pas, par rapport à ce que tu viens de dire, les femmes, entre guillemets, incapables, et ce n'est pas forcément les dévaloriser ou leur jeter la pierre, et qui sont, qui mettent l'accent sur le côté matérialiste, parce que c'est ça qui est mis en avant, ce ne sont pas des jeunes femmes ou des femmes, parce qu'on dit petites, tout est relatif, hein, parce qu'elles peuvent avoir une trentaine, une quarantaine d'années.
Qui sont immatures.
Et avoir ce discours-là. Mm-hmm. Des femmes qui ont manqué de beaucoup de choses, et peut-être d'un point de vue matériel. Et aujourd'hui, avec la société qui met en avant toute la partie consommation, effectivement, Edgar, partent du principe que pour qu'elles soient bien ou pour qu'elles mettent bien leur enfant, parce qu'elles ont manqué de pouvoir faire des activités culturelles ou elles n'ont pas pu partir en vacances en étant jeunes, etc., de se dire qu'aujourd'hui, si elles ont un père, le père de leur enfant, doivent subvenir à ça parce qu'elles ont manqué de ça.
Moi, je trouve que... Je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que tu intellectualises trop.
OK.
Tu vois, c'est-à-dire que celles qui vont... En tout cas, moi, ce que je pense, celles qui tiennent ce discours-là, déjà, c'est des petites, ou soit c'est des femmes âgées, immatures. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a été dans un couple longtemps sait que l'argent, c'est important, parce que c'est souvent aussi la source ou la cause de divorce ou de dispute.
C'est le nerf de la guerre.
Mais pour moi, c'est pas ce qui fait... le tout dans un couple. Et quand on entend ce genre de réflexion, on a l'impression que dès lors que l'homme va arriver et va poser sur la table une certaine liasse de billets, c'est bon, tout va rouler. Et c'est ça, en fait, moi, c'est contre ça que je me bats. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est que bien entendu, selon nos histoires personnelles propres, bien entendu qu'il y a des traumas qui font qu'on ne veut pas réitérer ou répéter ou revoir certaines situations dans lesquelles on a été. Donc forcément, quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup d'argent étant plus jeune, bien entendu que cet aspect financier, cette sécurité financière est un critère important. Maintenant, moi, sur quoi je mets l'accent, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit homme capable, parce que souvent, ce n'est pas père capable, c'est homme capable. C'est dans la définition de ceux qui emploient ces termes-là, c'est quelqu'un qui me sort, qui m'emmène en voyage, qui a une grosse voiture, et ainsi de suite. Donc moi, c'est ça que je pointe du doigt. Après, bien entendu que pour une femme, par exemple, tu ne vas pas te mettre avec un mec fauché. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que un mec fauché ou qui n'a pas d'ambition. Pourquoi ? Parce que toi, en tout cas, en règle générale, tu aspires à quelque chose, à une vie quand même décente. Pas de millionnaire, mais au moins une vie décente. Donc si en face de toi, tu as un mec fauché qui n'a pas de projection, bien entendu que tu ne peux pas te projeter avec lui. Donc là-dessus, je suis d'accord. Il faut quand même avoir un minimum. Mais moi, je pense, en tout cas moi, dans ma lecture, dès qu'on dit homme capable, c'est quelqu'un qui a de l'argent et qui va m'arroser.
Edgar ?
Je suis assez d'accord avec ce que dit Anne. Et faire croire à l'opinion publique ou à tout un chacun que l'argent, il fait tout, non. On voit bien, il y a des familles bourgeoises où ils ont cette sécurité dite financière. Pas de problème de fin de mois, frigo rempli tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème autre. C'est peut-être pas ce côté-là où ils ont un problème, mais famille, c'est pas le bonheur, quoi. Et donc, moi, dans un premier abord, quand on dit homme capable, si je pense en dérision, mais je penserais plus à Charlie Ingalls.
C'est vrai que ça avait bricolé.
On a tous vu, on a tous connu ça, la petite maison dans la prairie, l'homme qui se dévoue pour sa famille, quoi, dans tous les sens du terme. Voilà. Et ben ça, c'est. Il n'y a pas que la notion d'argent, il y a. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, la responsabilité de sa famille. C'est-à-dire que c'est un homme qui prend soin de sa famille, qui prend soin des siens. Et voilà, ça c'est... Parce que comme dit Anne, cette terminologie homme capable, par excellence, un homme, il a sa fonction, la femme, elle a sa fonction. L'homme et la femme sont deux entités différentes, bien distinctes. On a des modes de fonctionnement différents en termes émotionnels, c'est surtout émotionnel parce qu'on fonctionne différemment au niveau de la sensibilité. Et quand il y a union, il s'agit de faire qu'un. Et en ce qui concerne la parentalité, c'est-à-dire que par rapport à l'enfant, dans le couple, au niveau de l'éducation, c'est que lui et elle...
Forme une équipe.
Exactement, et parle que d'une seule voix. C'est-à-dire que, en gros, le schéma idéal, c'est que quand papa, je veux ça, non. Il ne se dit pas, ouais, bah, comme papa, il est dur, je vais aller tester chez maman. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il saura très bien que chez maman, ce sera la même réponse.
Merci, Edgar.
Et moi, je voulais juste dire aussi, c'est couple capable. Parce qu'on fait une équipe.
Bien sûr.
On forme une équipe.
Bien sûr.
Donc moi, pour moi, c'est couple capable. Pourquoi ? Parce que si on va prendre un vélo, il y a deux roues, on est d'accord ?
Effectivement.
Maintenant, s'il y en a une qui est crevée, ça fait...
On n'avance pas.
On n'avance pas.
Hormis celui qui sache faire des roues arrière.
Ou des roues avant.
Des roues avant.
Mais donc moi, c'est ça.
Oui, dans l'ensemble, tout à fait.
Lassana ?
Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et le plus important, surtout sur l'époque où nous sommes maintenant, c'est de redéfinir qu'est-ce que ça veut dire père capable. Moi, je pense que c'est surtout au quotidien, on ne se rend pas compte, mais il y a des actions qu'on pose individuellement qui font croire certaines choses. Je prends un exemple tout bête, hein, tout bateau. Moi, je tiens à cœur de déposer mes enfants à l'école ou à la crèche. Je dépose mon enfant à la crèche. Il y a une dame d'une... un certain âge qui m'arrête pour me dire bonjour. Je dis bonjour tout simplement. Elle me dit bravo pour ce que vous faites. Je comprenais pas. Mais elle me dit oui, vous accompagnez votre enfant le matin à la crèche. Mais le fait qu'elle me dise ça, je me dis mais il y a un truc qui cloche en fait. Pour elle, c'est pas normal, limite, qu'un père pose son enfant à la crèche. Du coup, c'est censé être pour elle le rôle de la mère. Sauf que je suis le père. Elle a pas fait tout seul l'enfant, quoi. Enfin, et à un moment donné, j'ai un rôle à jouer. Et je pense que mis bout à bout, on se rend pas compte, mais on divise en fait les rôles. C'est que ça, c'est pour le père, ça, c'est pour la mère. Et maintenant, bah, comme je dis, il faut demander aux femmes qu'est-ce que vous insinuez derrière de « je veux un père capable ou un mari capable ».
Après, ça vient aussi beaucoup peut-être du fait que là, on est dans l'ère de la protection des femmes, hein, la femme, de lutter aussi contre toutes les violences qu'on a pu subir. Voilà. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre de « c'est papa qui n'assume pas leurs responsabilités au moment où les grossesses pointent le bout de leur nez ». Mais aussi le fait que pendant très longtemps, tout ce qui était lié à l'éducation de l'enfant, etc., c'était la femme. Si tout va bien, c'est monsieur, madame. Quand ça ne va pas, ouais, mais en même temps, regardez sa mère. En même temps, elle n'est pas capable d'éduquer ses enfants, etc., etc. Donc du coup, d'où l'importance aujourd'hui, un, de vous mettre à l'honneur, mais aussi d'expliquer que cette question, elle se pose parce que bah, pendant longtemps, quand ça n'allait pas, c'était les mères. Et maintenant... Quand ça va plus ou moins, ou quand on a des enfants, qu'on a la chance d'avoir les deux parents, ben on a des hommes aussi qui reprennent un peu leur place, en tout cas dans l'espace public. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire en vous donnant aussi ce temps de parole.
Bien sûr.
Mais en vrai, qui fait quoi? Comment on le fait? Est-ce qu'on le fait en équipe? Est-ce qu'on le fait pas en équipe, hein?
Ouais. Ça remonte à... Parce qu'on discute de ça, mais on est sur le prisme d'aujourd'hui.
Ouais.
Mais... on est dans une société où on est en France. Il ne faut pas oublier que la femme, sa position au sein de la société, c'est récente pour elle. C'est-à-dire que souvent on caricature « Ouais, Marie, couche-toi là !» Mais en vrai, dans la société française, ça a été ça. Il ne faut pas oublier que la femme, elle a le droit de voter depuis peu par rapport à... Depuis que
1960.
A... Voilà.
Elle était la propriété de son père, voilà. Puis de son mari, voilà. Puis de...
Donc, c'est pas, j'ai envie de dire, comme ils disent, c'est pas des lols, en fait. La position, parce qu'aujourd'hui, on est sur l'ère, effectivement, de la protection de la femme, les MeToo, les balances ton port, tout ça, tout. Mais d'une manière générale, sur une période très, très longue, la position de la femme, et là, je parle pour que le cas de la France, mais ça a été... C'était mondial, en fait. La position de la femme, elle n'était pas comme on est aujourd'hui. Et encore plus, la femme française. Parce qu'avec la Révolution, ça a commencé à changer. Et c'est historique, hein, ça peut être prouvé.
Non, mais pour répondre à ça, Edgar, la position de l'homme, c'était « je vais travailler, je pose l'argent sur la table et tu t'occupes des enfants, de l'éducation, du ménage. » Et aujourd'hui, ce qui est en train de se revendiquer, c'est
qu'on
va tous chercher de l'argent. Donc du coup, ça repositionne et ça re-questionne la place de chacun dans le foyer. Alissata, elle voulait intervenir.
Bah en fait, ça, c'est le capitalisme. Le capitalisme, l'individualisme fait que l'homme, quand il va travailler pour des grands industriels, ceux qui tiennent le marché, comment on peut faire pour générer plus de sous? Eh ben, on va faire en sorte que les femmes, elles dépensent. Ils savent très bien que c'est... au niveau du marché, les femmes, elles dépensent. Même quand on s'intéresse sur le marché des enfants, à travers les enfants, on arrive à toucher la femme. Et les calculs, il est simple. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc au niveau chiffre d'affaires, tu fais dépenser les femmes, tu vas générer plus de sous. Quand on parle en termes comme ça, parce que tout est une histoire de marché. Là, on parlait des réseaux sociaux, on parlait de... eh ben, c'est ça, en fait. Tout est une histoire de marché. Quand tu reviens tout au niveau des finances, ça fait quoi? Eh ben, ça casse la structure familiale. On peut y mettre différents ingrédients comme MeToo, tout ça, tout. Bon, il y a des vraies causes, hein. Par exemple, l'association du GAMS, sa revendication, son combat... C'est quand même une vraie cause. Il y a des drames très sérieux derrière.
Est-ce que dans ce que tu dis, Edgar, on ne revient pas sur justement... Tout à l'heure, on parlait homme capable, homme alias, ceux qui peuvent poser de l'argent sur la table. Et toi, tu parles de capitalisme, de dépenses, etc. D'où le fait peut-être d'aller chercher des hommes qui ont un pouvoir d'achat
plus. Enfin, mais c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est-à-dire que, à travers ce que vous êtes en train de dire, effectivement, le droit de vote des femmes dans les années 60, pouvoir ouvrir un compte, fallait encore, et c'est à partir des années 60 également qu'on n'avait plus besoin, nous les femmes, de demander l'autorisation pour ouvrir un compte, d'avoir un carnet de chèques, etc. À chaque fois, les femmes, elles ont dû se battre, et merci à nos aïeux de s'être battues, parce qu'il y a encore allez, 70 ans de cela, une émission comme celle-ci, et nous retrouver autour de cette table avec vous, ça n'aurait pas été capable.
Exactement.
Ça n'aurait pas été possible.
Exactement.
D'accord. Et après, et donc si on prend l'ancien temps, l'homme, cette image de l'homme qui ramène l'argent sur la table, c'est ce qui a existé depuis tout temps. En fait.
C'est ça.
C'est moi, cool. Ça me fait penser au film, je ne sais pas si vous avez la référence qui me parle fortement à ce moment-là, Fences, avec Denzel Washington et Viola Davis. Mmh. Donc, c'était dans les années 50 à peu près, si je ne me trompe pas. Lui, il est ouvrier, il va chercher, il va travailler, Madame reste, donc Viola Davis est au domicile, voilà. Et à chaque fois, à chaque fin de semaine, quand il a son salaire, il le dépose sur la table et c'est elle qui gère les finances de la maison. Elle lui donne sa petite enveloppe, son billet pour qu'il puisse aller boire son verre, jouer avec son pote aux cartes, aux dominos, que sais-je encore. Mais c'était comme ça. Et en fait, cette réalité-là, elle existe encore dans certains pays et sur d'autres continents. Même sur le territoire français, il y a encore des gens qui fonctionnent comme ça, différemment, sans forcément avoir sa liasse de billets et qui dépose, mais qui va faire le virement. Et c'est madame qui va régenter le fonctionnement de la maison, etc. Il y en a qui s'y retrouvent et d'autres qui ne s'en retrouvent pas. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette mutation, elle s'opère. Et que cette nouvelle génération, ou voire ancienne génération, elle est un peu perdue. On n'a plus. Les codes sont brouillés. Et il y a parfois besoin de faire un retour en arrière pour dire d'où ça vient tout ça. Ça ne vient pas de nulle part, en fait, de mettre de l'argent comme ça sur la table. On peut décrier ces jeunes, mais ces jeunes, cette information-là, elle a existé. Et elle existe encore
bien
aujourd'hui.
Sûr, sûr.
Maintenant, c'est comment elle est détournée.
Exactement.
Et comment elle est détournée, comment elle est biaisée et comment elle biaise nos interactions entre les hommes et les femmes. L'exemple que tu donnes, là, Sana, c'est-à-dire de emmener ton enfant et cette femme d'un certain âge, c'est pas anodin non plus, tu vois, la génération qui t'interpelle et qui te félicite. Combien ne te l'ont pas dit et n'ont pas pensé la même chose qu'elle.
Bien sûr.
C'est-à-dire, ouais. Tu vois, et au même titre où toi, c'est normal, où d'autres peuvent se dire « Waouh, elle a de la chance, ta femme », ou d'autres un peu plus mauvaises, on se dire « Ouais, bah, c'est parce qu'elle doit être… » soit elle est malade ou soit elle travaille beaucoup et du coup, c'est lui qui s'en occupe. Donc, t'imagines, toi, tu accompagnes juste… entre guillemets, ton enfant, mais imagine les hommes, et comme Barberiche a pu le faire, ne pas travailler pendant un an, poser un congé parentalité et s'occuper de son enfant. Là aussi, ça bouscule toutes les représentations, etc.
Moi, je vais être père au foyer, de toute façon.
Tu l'as toujours dit.
Attends, c'est vrai que ce que tu viens d'énoncer par rapport à l'action de Barberiche, dans le commun des mortels, de l'opinion générale, c'est pas habituel, c'est pas commun, c'est pas... tu vois ? Parce que le congé, on dit congé maternité de général. Et il y a même, dernièrement, récemment encore, il y a une étude qui dit que par rapport au congé de paternité, les hommes ne les prennent pas. Il y a une statistique où tu en as quelques-uns qui les prennent, mais par rapport à la masse de natalité, les hommes ne prennent pas leur congé de paternité par rapport aux femmes qui, elles, le prennent.
Est-ce que ce n'est pas pour fuir justement le chamboulement émotionnel et la charge de travail, de fatigue qui survient après bébé?
Ouais,
ce n'est pas un échappatoire d'aller travailler.
Ouais, aussi, mais moi je trouve que bon, après, je ne veux pas essentialiser, mais moi je l'ai dit dès le départ. C'est-à-dire que c'est le couple qui doit gagner.
Ouais, je suis d'accord.
Et dans beaucoup de couples, on n'est pas forcément dans cet alignement de ne former qu'un. Je vais donner un exemple. Par exemple, en ce qui concerne les comptes bancaires. Il y a encore des couples aujourd'hui qui séparent. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je pars d'un principe que dès lors, tout à l'heure, Aminata parlait du fait d'avoir son premier enfant. Dès lors que tu as un enfant en commun avec quelqu'un, normalement, si tout se passe bien, vous êtes liés jusqu'au bout. Donc, tu vois, moi, les histoires de chacun son compte, toi, tu payes l'électricité et moi, je paye le loyer. Et ah, ce mois-ci, tu as moins. Ah, bah, tu vas rien faire.
Ouais, mais est-ce que
Alors
ça
qu'on
va
est.
pas?
Attends. Donc moi, pourquoi je mets ça sur la table? Parce que pour moi, c'est le couple qui gagne. Et moi, dans mon cas précis, c'est que à l'époque où je le fais, ma femme, en termes de carrière, en termes de projection professionnelle, c'est elle qui est plus avancée et entre guillemets, c'est elle qui va plus rapporter au couple. Parce qu'elle était en mode formation. Donc si c'est elle qui prenait les congés, ça pouvait mettre à mal ces ambitions-là. Donc moi, pour le bien du couple, c'est moi qui ai pris le congé.
Non, mais ça c'est
Non
noble.
mais
T'as mis ton ego de
j'ai mis mon
côté.
j'ai mis mon c'est là où je veux en venir. Moi j'ai mis mon ego de côté. C'est ce truc d'homme et par dérision à chaque fois je dis je veux être homme au foyer c'est pour un peu bousculer les gens. Mais parce que moi à ce niveau-là, moi dans mon couple, j'ai pas d'ego. En tout cas pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que ma femme, c'est ma femme, je l'ai choisie, on a des enfants ensemble. Je ne peux pas avoir d'ego. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, et dans beaucoup de couples, il y a encore ce truc d'ego. C'est l'homme, ouais, moi je suis l'homme. Donc comme je suis l'homme, voilà ce qui m'incombe.
Non,
Moi, pour moi, c'est le couple qui doit gagner.
ça,
Ouais, mais
c'est
les
les
dérives qu'il y
éducations.
a
C'est
aussi,
l'éducation.
et puis aussi
C'est l'éducation,
avec tous
ça.
les divorces qu'il y a,
C'est
parce
ça.
qu'avant, il n'y avait pas cette question de divorce, donc il n'y avait pas cette question de répartition des biens, etc. Enfin, tu divorçais pas de toute façon. Mais aujourd'hui, en fait, quand tu regardes la société, le modèle de la société d'aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir les deux comptes à part, de gérer les finances différemment, c'est pas aussi...
Ça change rien.
Même si tu te projettes dans on va être ensemble, mais tu sais pas. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui restent coincées parce que justement, financièrement, elles ne peuvent pas voir venir les choses. Donc, en fait, elles ne peuvent même pas envisager quoi que ce soit, qu'elles soient battues, malmenées ou autres. Donc, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas, ça peut expliquer aussi le fait que, parce que toi, tu vas voir que tu prends pour de l'anticipation de quelque chose qui ne devrait pas marcher alors que tu es censé faire équipe, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés coincés
C'est ça.
dans une ambition qui finalement n'est pas la
Ouais, mais
réalité des
oui.
choses.
Oui,
Mais
mais,
et en
oui,
plus.
mais pour moi, tu vois, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, ça reste un pari risqué en vrai.
Toujours, toujours.
Ouais, mais jusqu'à présent, ceux qui s'en sortent le mieux en cas de séparation, etc., c'est celui, bah,
C'est
justement, qui
les
a
hommes.
continué à aller travailler, celui qui a travaillé sur sa carrière, celui qui empoche le
Oui.
plus. Là, par exemple, dans l'exemple que tu donnes, c'est toi qui prends le risque par rapport à ta femme. C'est-à-dire que quand tu fais le choix de rester à la maison, d'éduquer les enfants et que ta femme, elle aille poursuivre sa carrière, etc., tu prends le risque sur un pari
Oui,
risqué dès le
mais
départ.
juste, et
Attendez.
je ne veux pas monopoliser la parole parce que là, Sana, il s'est
Mais...
pas forcément exprimé là-dessus. Mais si tu regardes bien, tu vois, et en plus, on en a un exemple ici. Tu as vu la femme? Si déjà dans son foyer, elle est active, et c'est une femme qui a des ambitions, c'est une femme qui est speed, même si elle divorce, bien entendu qu'il va avoir un moment de battement où ça va être compliqué. Mais si elle est active,
Elle va
et
rebondir.
qu'elle a des compétences, elle va rebondir.
Non, mais
Les
souvent,
femmes, les femmes pour
souvent
qui,
elles n'ont pas les compétences
les voilà, mais c'est
mais
ça.
si.
Mais les femmes pour qui, c'est ce que j'allais dire, les femmes pour qui ça devient compliqué, c'est les femmes qui se sont reposées uniquement sur leur mari. Donc ça revient à la phrase du départ, moi je veux un homme capable. Et c'est pour ça que cette phrase-là, moi je peux pas l'entendre parce que tu veux un homme capable. Donc l'homme, il va tout te donner. Mais pendant ce temps-là, toi, tu te construis pas. Parce que tu vois tout à travers le prisme de ton mari qui va tout te donner. Et
Non,
dans le
c'est vrai.
cas où ça ne fonctionne plus, où tu te rends compte que ton mari il est violent ou que ça colle pas, c'est là où tu te
La mise sur.
retrouves
Juste
là
dernière, vas-y,
on est
dernière.
dans une vision, on est aussi quand même dans une vision linéaire ou pour ne pas dire binaire, mais parce que l'un n'empêche pas l'autre. pouvaient très bien être mariés, chacun conserver son compte personnel et
oui.
construire un compte en commun. Tout oui. en conservant les comptes personnels.
Ce que beaucoup font, mais bon. Sans vouloir vous couper, Lassana, quelles sont les plus grandes pressions que tu ressens aujourd'hui en tant qu'homme ou en tant que père? C'est-à-dire qu'il y a plein d'injonctions sociétales, etc. Quelles sont les plus grandes pressions que toi tu ressens?
Ben, ça va dans le sens de la discussion depuis le début. Hein. C'est la comparaison. Là, on rentre dans l'intime des gens sur tous les points qu'on a cités depuis tout à l'heure. Mmh. C'est, tu parlais de compte en commun, de formation, de connaissances et tout ça. Tout part de la base. C'est à partir du moment où tu ne regardes pas ce qu'il y a à l'extérieur, de ton couple, bien sûr, et que tu te bases que sur ton mari ou ta femme et ce que vous avez en commun ou ce que vous êtes capable de faire, je ne pense pas qu'il puisse avoir de problème. Mais à partir du moment où tu regardes à l'extérieur et que tu te compares, parce qu'on parle de père capable, mais c'est par rapport à quelque chose qu'on dit ça. Mmh. Un homme capable, c'est par rapport à quelque chose qu'on dit ça. Quand on parle de billets aujourd'hui, oui, toutes les femmes aimeraient un mec qui pose la carte bleue, limite dire « Oh chérie, ce week-end, tiens ma CB, vas-y, fais ce que tu veux. » C'est parce qu'elle a vu quelque part. Mmh. Parce que sa copine, elle est bien, parce que ses enfants, ils sont sapés de la tête aux pieds en Nike ou bien en Dior. C'est parce qu'on se compare constamment. Mais aujourd'hui, si tu restes dans ton coin, entre guillemets, que tu regardes que ta femme, et est-ce que vous avez à manger sur la table, est-ce que tes enfants, ils sont assez bien vêtis, entre guillemets,
bonne santé,
en bonne santé, correctement, pourquoi tu vas te prendre la tête? Moi, aujourd'hui, je pars du principe où faut qu'on arrête de se comparer et qu'on définisse personnellement et intimement, pas par rapport aux voisins ou même aux amis parfois, parce que les amis aussi, ça parle beaucoup. Moi, je parle dans mon cas, on part de zéro, nous. On n'avait pas d'enfants, on parle de zéro. Du coup, je pense que vous l'avez tous vécu. Même toi qui arrives dans un foyer déjà plus ou moins bâti, c'est qu'on te dit des choses. L'expérience des autres, mais ce n'est pas la tienne. Donc à partir du moment où tu fais attention à ça, je pense que tu te mets déjà des petit bâton dans les roues avant de commencer quoi que ce soit.
Ouais,
donc,
la pression,
c'est la comparaison.
C'est un peu l'extérieur qui vient amener la pression à l'intérieur.
Ah, totalement.
Tout à l'heure, je demandais à Alissata, bah, justement, qu'est-ce qu'on attendait, qu'est-ce qu'elle, elle attendait au moment de la venue de ses enfants dans l'éducation d'un père. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question aussi de est-ce qu'il existe une charge mentale des hommes?
Oui.
Parce que là, en ce moment, on parle beaucoup de la charge mentale des femmes. Alors nous, comme on a dit, on occupe l'espace public. Hein. Vous nous donnez, on le dit, c'est une réalité, la surcharge mentale des femmes. C'est un réel sujet.
Ça, on ne contredirait pas.
Mais ça inhibe le fait que potentiellement, peut y avoir en face aussi une charge mentale des hommes. Est-ce qu'elle existe et...
Non seulement elle existe, mais elle reste encore, par rapport à l'image qu'on a de l'homme, elle reste taboue. Parce que un homme qui parlerait éventuellement de charge mentale pourrait très bien, même en 2025, à l'heure où on se parle, pourrait très bien être perçu comme un homme fragile.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui ressort facilement. Oh, il est fragile. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on a cette pression-là, nous, les mecs. C'est pour ça que quand Anne il fait allusion à l'ego, eh ben, quelque part, c'est qu'on y est contraint. Et un petit exemple tout bête, hein, on a qu'à la cité, tu vois. Quand t'es jeune, viens, il y a une embrouille, on va descendre là-bas. Ben non, moi je vais voir, même si c'est pas sa place. Oh, t'es un bouffon. Et rien que pour une histoire d'ego, de respect, ne serait-ce que ça, pour que tu sois vu comme il faut, eh ben tu vas y aller. Au risque de te mettre dans des problèmes sérieux, tu vois ce que je veux dire? Et nous, on a cette pression-là, en fait, en tant qu'homme.
Lassana?
Alors moi, je vais rebondir là-dessus, parce que c'est un sujet super important, il faut en parler. Moi, je vais parler de mon quotidien et de mon expérience. Petite qu'elle soit, mais je vais en parler, c'est que faut casser ce délire de dire les hommes tout va bien, on est fort et tout ça, c'est faux, faut arrêter, c'est faux.
C'est un travail à faire.
Exactement, moi je vais parler de ma personnellement, vous savez, je suis préparateur mental, je suis dans l'accompagnement et tout ça, mais j'ai quand même une vie à côté. Et je fais la même chose que ma femme, on s'occupe tous les deux des enfants, elle travaille aussi au même rythme que moi, mais quand ça va pas, je lui dis, là, j'en peux plus. Et c'est pas une honte de dire je ne peux plus. Et le fait de le dire, moi, il y a quelques mois de ça, je lui ai dit, hey, stop. Le fait même de voir mes enfants et ma femme à la maison, ça me fatiguait. Je ne pouvais plus. Mm. Et je lui ai dit, stop, je ne peux pas. Donc, 2-3 jours, j'ai coupé. Et ce n'est pas une honte de dire...
C'est important même.
J'y arrive pas.
De toute façon, la charge mentale de l'homme, c'est la femme.
Ben,
lui, il veut écrire un livre sur ça, mais c'est pour ça.
Mais en même temps, on ne peut pas lui en vouloir de dire ça. C'est parce que, comme il le disait Edgar tout à l'heure, c'est que l'environnement fait que... Donc, quand tu as tous ces paramètres autour de dire que... Mais l'homme, il est comme ça. Il ne peut pas avoir mal, lui. Mais il est fort. Comment tu te formates? Tu te dis, bah ouais... En fait, j'ai pas le droit de pleurer. J'ai pas le droit de dire j'ai mal.
Exactement.
Mon ami, je suis désolé. Hein. Je suis un homme comme tout le monde. Et je vous le dis, personnellement, quand ça va pas, dites-le. Moi, personnellement, j'ai... Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est la communication entre vous. C'est hyper important. Moi, ma femme, je lui dis, aujourd'hui, je peux pas. Je suis à sèche. Je peux plus physiquement, mentalement. Je ne peux plus. Elle prend le relais et puis vice-versa. Et puis... Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer.
Et même, je vais même dans ton sens, parce qu'un phénomène de société qui est arrivé souvent, c'est qu'en cas de divorce, quand il y avait passage au tribunal pour la garde des enfants, en temps normal, c'était d'office attribué à la maman.
Oui.
Parce que dans l'esprit commun, un enfant, tu n'enlèves pas de sa maman. Par rapport, s'il faut choisir entre le père et la mère... La mère est prioritaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années de ça, bon, ça remonte à un petit moment, mais il y a un homme qui s'était suspendu auprès d'une grille, d'une grue, parce que...
Il voulait pas.
Il voulait pas. Et il n'admettait pas la décision du juge, comme quoi, il réclamait la garde des enfants. Et le juge disait que... Et lui, il revendiquait, c'était une façon de revendiquer, comme quoi les hommes, à chaque fois... c'était que les juges donnaient l'enfant aux femmes, or que nous aussi on a des droits, on a des droits pour avoir la garde des enfants.
C'était il y a 20 ans. Facile. Oui, je me souviens. Oui, parce que ça a ouvert la porte à la garde partagée et cet homme a mis en lumière qu'un père pouvait aussi bien s'occuper de son enfant et au même titre que la mère. Si, je me souviens bien. Et ce que tu dis là, Sana, c'est très juste. C'est-à-dire que oui, homme, mais avant d'être homme ou femme, on est des êtres humains. On fonctionne tous de la même manière. On a des larmes, on a un souffle, on a de l'oxygène et à un moment donné, on peut arriver à saturation. Et il est important que nous aussi, nous les femmes, nous arrêtons de vous regarder comme des surhumains. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un homme nous dit « là, j'en peux plus », et de pas lui dire je comprends pas, t'es fragile, commence pas à faire ta mauviette ou à tenir des propos aussi infantilisants et écrasants. Je trouve que ça écrase et du coup ça laisse pas la place aux hommes de dire leur ressenti. Quand t'as des hommes qui sont au burn-out, dans le burn-out ou en dépression, il y en a. Ils sont pareils, invisibilisés, parce que nous, les femmes, nous faisons aussi beaucoup de bruit et nous en parlons plus facilement parce qu'on a les mots, on a le vocabulaire on nous met tout de suite, et c'est tout de suite assigné à l'émotion. Parce que la femme, voilà, elle pleure, etc., etc. Mais c'est pas parce que l'homme ne pleure pas ou pleure qu'on doit annuler ou discréditer à travers ce qu'il ressent. Donc de pouvoir le dire, il y a un travail effectivement sociétal, mais il y a aussi un travail vis-à-vis de nous, les femmes, les mères, les épouses, les sœurs. Ça vient dans tous les sens, en fait.
C'est parce que ça, c'est on est humain et on a des genres. Et ça, c'est le pouvoir de la femme sur l'homme. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu as des hommes qui n'hésitent pas à convoiter le pouvoir, tout ça, pour attirer la gente féminine vers eux. L'homme pour la femme, c'est une grande faiblesse, en fait. Et par rapport à, pour rebondir à ce que tu dis, oui, employer des termes, eh ben, tu dis à une femme qui va dire à un homme, t'es pas un homme, c'est...
C'est le castré parfois.
Ultime, c'est le castrage ultime.
Moi, si je dois répondre à ça, lors d'une de mes émissions, j'ai posé la question. Et boutade que j'ai pu faire tout à l'heure, c'est la charge mentale de l'homme, c'est la femme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon invité m'a dit « Mais non, pauvre chou, il n'y a que nous qui avons une charge mentale. » Et moi, je dis non. Si on suit charge mentale, d'accord ? Donc, il touche le psychisme, on est bien d'accord. Mmh. On est des êtres humains. Mmh. Et en fait, dans l'exemple, elle me disait « Oui, mais c'est nous qui avons le poids du foyer, on s'occupe de l'administratif, de ci, de ça, de ci. » Et moi, je la regarde. Je lui dis « Ouais, il y a des femmes, d'accord, qui veulent endosser ce rôle-là et qui, du coup, ont cette charge du foyer. Mais il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Mmh. Moi, je connais des hommes, par exemple, dans leur foyer, la femme a dit même pas A ou B. Elle s'occupe de tout. L'homme s'occupe de tout. Que ce soit les finances, les calculs, bon, il nous reste ça, on va utiliser ça. Les vacances, c'est moi qui les organise et ainsi de suite. Cet homme-là, il a la même charge mentale que la femme qu'elle m'avait décrit juste avant. Mmh. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, et je rejoins un peu ce que tu dis, c'est que nous, on a aussi quelque chose, c'est que, vu que tu dis qu'on veut plaire aux femmes, il y a sur plein de sujets où on est obligé d'être au top. Et ça, les femmes ne le savent pas. C'est-à-dire que nous, entre gars, on le sait.
Mmh. Oui.
On sait, nous.
Eh oui.
Au même titre qu'une femme peut dire, oui... ouais, le garçon, il va avoir une jolie passée et tout, et il va se laisser tenter. Ben, nous, on a cette charge-là aussi, nous, de se dire, on a une femme, mais derrière, là-bas, il y a des beaux gosses, là-bas. Mmh. Et moi, je dois m'entretenir pour que ma femme, quand elle se lève tous les matins, elle me voit comme le beau gosse qu'elle a vu il y a 20 ans. Mmh. On a cette charge-là.
Eh oui.
Nos enfants, parce qu'il y a ça aussi, parce qu'on parlait des enfants. Les enfants, en règle générale, normalement, hein, pour nos enfants, on doit être leurs super-héros.
Totalement.
Ouais.
Et du coup, ça, c'est un poids de fou, ça. Mais
bien sûr.
Parce qu'on sur les épaules du papa.
On n'est que des êtres humains. Ouais.
La maman, parce que la maman, ce qui est particulier, vu qu'il y a un lien de filiation très fort, parce qu'elle a donné vie à l'enfant, on va dire qu'il y a quelque chose de très naturel qui se passe.
Oui, parce que c'est dès le
très naturel qui se passe. Et on entend très rarement des enfants, même si leur maman fait des dingueries. Et moi, j'aime pas ma mère.
Non, c'est rare.
Mais on entend, ouais, mon père, il est comme ça, mon père, il a fait ci. Et des fois, les enfants, ils connaissent même pas les tenants et les aboutissants de pourquoi les parents se sont séparés, pourquoi le père a fait ça. Mais directement,
la faute, c'est le daron.
La mère, elle est épargnée et c'est tout de suite l'enfant. Ça, c'est une charge de fou, ça.
Oui, ils prennent parti, ils vont dire que le père, c'est un incapable, il ne sert à rien.
Exactement.
Heureusement que ma mère, elle est là. Et souvent, même quand il y a des couples, même quand les couples ne sont pas séparés, on va mettre en lumière notre mère. L'asana, c'est pas pour... du moins, c'est étonnant. Tout à l'heure, on a posé une question sur les pères. Et quand même, la première réponse qu'il a donnée, il a parlé de sa mère, de ce qu'elle a pu, de ce qu'elle a pu t'apporter, etc. Donc, effectivement, on a quelque chose de très ancré vis-à-vis de nous, notre rôle de mère. Et c'est vrai que nous, les mères, on s'inquiète pas trop de ça parce que. Tous les jours, on est. C'est pas pour rien qu'on nous appelle la mère nourricière. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ça va même plus loin.
On le nourrit, mais pas simplement de manière physique ou physiologique. C'est au quotidien. C'est-à-dire que on se lève enfant, on se réveille enfant. Quand on est ensemble, nous les femmes, les mères, il n'y a pas un moment dans la discussion, dans notre soirée, où il n'y a pas le thème enfant. Vraiment. Et que dans notre imaginaire, alors après, c'est à vous de nous le dire, mais vous, les hommes, quand vous vous retrouvez en soirée, foot, peu importe, hein, c'est très cliché ce que je vous dis, on ne s'imagine pas à quel moment vous allez discuter un petit peu de vos enfants. Hormis si vous venez d'être papa, ça va le bébé, ça se passe bien, et le père dit « Oh là là, les nuits sont difficiles, compliquées, etc. » Et les autres pères vont dire « Ah, vas-y, force, on est passé par là » ou quoi que ce soit. Mais nous, on va rentrer encore plus dans le détail. Le lait, le machin, le bidule. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tu sais sur quoi moi je voudrais aussi poursuivre, c'est que, et Lasana le disait tout à l'heure, et Edgar aussi, c'est que nous, on est des hommes. Et malheureusement, les injonctions sociétales font qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas confier à l'autre. Mmh. Alors que vous, quand vous avez des problèmes, vous avez votre meilleur ami à qui vous allez vous confier. De tout. Nous, on ne peut pas.
Bah, excellente transition, puisque la question que je voulais vous poser, c'est bah, justement, est-ce qu'on laisse assez d'espace au père pour douter, pour échouer, pour parler ? Et je te regarde, là, Sana, parce que dans une autre émission, tu parlais justement de laissez-nous le temps et l'espace pour devenir ou être père.
Effectivement. Et puis, il le dit bien, hein, Berberis, c'est qu'il y a des choses déjà, ça part de nous. Je tire sur les femmes parce qu'au quotidien, c'est avec elles qu'on se bagarre. Mais ça part déjà entre nous, hommes. On dit, il y a des choses, on n'oserait même pas le dire entre mecs comme ça, posés. Je suis fatigué de ça, nos enfants me fatiguent et tout ça. Parce que tu dois garder cette image-là. Déjà, à partir de là, déjà, l'histoire, elle est biaisée totalement. Parce que ça veut dire, déjà, à la maison, tu le caches. Avec tes propres potes, tu le caches. À tes enfants, tu le caches. Au travail, tu le caches.
Tu vas pas voir tes parents pour leur dire ça.
Nous, on sort d'une génération où, comme il le disait Barbara Gistalien, c'est que un père capable à l'époque, c'était celui qui allait travailler, pose la nourriture. Mon job, il est fait. Tu vois. Mais aujourd'hui, tu peux pas en parler. Et puis, parlons même pas de dire à un mec, bon gars, comment je te vois là en ce moment, ça serait bien que tu vois un peu un psy, tu vois. Mais parle même pas de ça. Même pas en rêve. Et du coup, déjà, les femmes, elles ne voient pas ça. Du moins, difficilement. C'est quand ça commence à péter, on dit « Oh, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais c'est déjà trop tard. Le mec, il a dépassé toutes les limites, il a tout pris sur lui, et puis là, il y a une goutte d'eau, peut-être qu'on lui a juste dit hey, « change la couche ce soir », il a dit « Oh, c'est bon, il a tout mélangé, on ne comprend plus rien. »
En fait, excuse-moi,
vas-y.
Il y a des codes intramasculines que les femmes ne peuvent pas comprendre.
Non.
C'est propre à nous. Un exemple tout bête. Hier j'étais chez Anne. On parlait d'une histoire de garçon comme ça où Anne, il a vu quelque chose que Ami ne comprenait pas. Parce que c'est propre à nous. C'est des codes. Elles sont pas palpables.
Elles sont perceptibles.
Perceptibles. Mais nous, tout de suite, dès qu'on y est confronté, on sait. Parce quoi ? Parce que il y a cet ego, il y a cette pression du mal, tu vois ce que je veux dire ? Et que on peut tous avoir un comportement, dès qu'il y a les femmes, on peut tous avoir un comportement que les femmes ne verraient pas spécialement, mais nous, direct, ça parle.
Mais vous voyez votre discours, ça je l'entends, et je ne suis pas en train de vous dire avec... Ben, nous aussi, mais effectivement, nous les femmes... Et on peut vous le dire dans l'intimité ou dans une discussion franche, honnête et bienveillante. C'est-à-dire que nous, des femmes aussi, il y a des choses que vous n'allez pas percevoir dans les signaux ou dans les comportements d'une femme, dans l'assemblée ou dans l'assistance, etc. Et on va se regarder, Aminata et moi, en disant, tu vois, elle, ou tu sens que... par exemple, si on parle de la charge mentale et on va la voir, on va voir cette femme-là, on est chez elle en train de tout cliner, de tout ranger, elle reçoit tout le monde, etc. Vous, les hommes, vous n'allez pas forcément percevoir parce que vous êtes là, vous êtes posés, vous avez votre assiette, votre verre et tout. Nous, les femmes, on va être... Et ce n'est pas anodin, une bonne partie dans la cuisine pour lui donner un coup de main. Et c'est là, nous, à ce moment-là, qu'on va s'apercevoir pendant que son mari il est à côté en train de rigoler et voir potentiellement aussi de venir lui donner un coup de main, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne va pas du tout lui donner un coup de main. Nous, de se rendre compte qu'en fait, elle est en train de péter une durite et qu'à un moment donné, elle va s'autoriser. Et c'est là où, Anne a raison, où elle va s'autoriser en fonction des personnes qui sont autour d'elle, de craquer en disant « Mais en fait, là, je n'en peux plus. Limite, je ne supporte plus cet enfant. » Quand on voit tous les humoristes autour de la maternité, tout ce qui est dit de manière caricaturale, mais sachez que pour la plupart d'entre nous, on l'a pensé très, très fort.
Ouais, mais vous, il y a des sujets sur ça. Parce qu'en fait, c'est ça la nuance. Ouais. C'est que tu vois, tout ce que tu dis là, ça, c'est des choses qui sont
pertinent, quand même.
Explicitées, qui sont même étudiées. Il y a des études sur tout ça. On en parle souvent.
Mais, on a brisé le tabou.
Ouais, vous avez brisé le tabou. Mais maintenant, en ce qui concerne la charge mentale, parce que c'était ça la question de l'homme, il y a certaines femmes qui vont te dire, féministe, ist, parce que pour moi, elles sont aux extrêmes des extrêmes des extrêmes, parce que pour moi, il y a plusieurs branches.
Oui, oui, tout à fait. Plusieurs courants.
Ça n'existe pas. Alors que la réalité, c'est que, vu que historiquement, c'est l'homme, en réalité, qui tient le foyer. Nous, on a une charge de... En fait, on a une charge, mais comme on ne parle pas...
C'est ça. Hein.
Comme on ne parle pas, bah, on a laissé croire, ou on laisse croire qu'on est indestructible et que du coup, bah, ça n'existe pas. Mais moi, personnellement, en tout cas, quand on est dans un foyer équilibré... La charge, elle est de part et d'autre. Hein.
Bah, oui. Elle est partagée.
Elle est partagée, exactement.
Elle est partagée, tu as raison. Mais ça veut dire, juste excuse-moi, mais on l'a dit, et je pense qu'on est d'accord tous autour de cette table, c'est qu'il faut briser les tabous. Cette émission, et en tout cas, on vous en remercie de nous avoir invités, permet, c'est le début, c'est que comme ça hein, qu'on pourra... briser les choses et dire les choses. C'est-à-dire que oui, certains courants féministes n'entendent absolument pas, c'est inaudible ce genre de discours-là, mais plus des hommes porteront leur voix et mettront sur la table leurs émotions, leurs sentiments, leur vécu, et sans chercher à écraser l'autre, c'est toujours ça en fait, sans forcément à écraser l'autre, ça sera entendu. Au même titre où nous, les femmes, eh ben, on peut dire les choses, mais ça ne veut pas dire qu'on a de la charge mentale, que vous n'en avez pas, et qu'on doit vous écraser de par ce qu'on vit. Et ce n'est pas parce que tu as un vécu particulier que c'est le vécu de toutes les femmes, et vice-versa. Ce n'est pas parce qu'un homme fonctionne de cette manière-là qu'on doit faire une généralité. Même si en termes de pourcentage, y a beaucoup plus de chiffres, des statistiques et d'articles là-dessus au sujet de la femme en fonction de certains thèmes. Mais il faut libérer la parole.
Ben, en fait, pour rebondir à ce que tu dis, c'est que les statistiques chez l'homme, elles sont là, mais pas directement liées à ça. Elle va se répertorier, elle va se répercuter en termes de violence. La charge mentale, nous, on introduise, étant donné qu'on ne peut pas se confier en tant qu'homme, on ne peut pas se confier, ça va être perçu comme de la faiblesse. Et malheureusement, hein, même si aujourd'hui on est en 2025, en tant qu'être masculin, avec ce que ça implique, on ne peut pas accepter de se voir qualifié de faible. Ça reste, même si ça peut être tout con, hein, de manière... Mais c'est intrinsèque à ce que nous sommes. Mais souvent, le pétage de plomb, le fait de fatigue, ça va se retranscrire par de la violence.
Et des femmes meurent.
Tous les jours.
Pas spécialement des femmes. Hein, des fois, c'est...
Mais maintenant, c'est des hommes aussi qui meurent en face.
C'est des faits divers.
Ouais,
c'est
toutes les trois minutes, il y a une femme qui meurt.
Exact.
Ah, voilà. Mais c'est intéressant. C'est
très intéressant.
Parce que... C'est intéressant ce qu'il dit. Parce que c'est vrai que lorsqu'on aborde, en plus c'est un sujet très sensible, on aborde ce genre de sujet sans trouver d'excuses à ces hommes-là. On ne trouve pas des excuses,
mais
on essaye de trouver des causes.
Ouais, des explications.
Et bah, ce qu'il vient de dire, c'est vrai que c'est un discours que je n'entends pas souvent. Qu'on dise que, ok, on ne t'excuse pas, tu as fait ce que tu as fait, même nous, on va te rentrer dedans s'il faut.
Mais bien sûr.
Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que des fois, vu que... Parce qu'on parle souvent de gestion des émotions. On n'a pas été éduqué à ça. Ouais. On ne nous a pas appris à gérer nos émotions. Et malheureusement, quand tu as un trop-plein et qu'on ne t'a pas appris à gérer tes émotions, des fois, tu as des réflexes qui sont mauvais. Et je pense, oui, que dans cette multitude, tu vois, de cas de violence... faites aux femmes, il y a ces motifs-là.
Mais bien sûr.
On est OK. On est OK là-dessus.
Tu veux rajouter quelque chose, Lassana ?
Non.
Non, t'es sûr ?
Tout va bien.
Finalement, dans tout ce qu'on s'est dit dans cette partie-là, c'est se rappeler que finalement, être un père, c'est être un repère, pas être un super-héros. Du coup, pouvoir accueillir ses émotions, gérer ses émotions, mais pour cela, faut-il encore que vous trouviez cet espace et qu'on vous laisse aussi cet espace pour pouvoir vous exprimer. Mais même, tant bien même qu'on vous laisserait cet espace, si vous n'en saisissez pas parce que vous ne sortez pas des égos ou de ce qui se dit, ce qui est acceptable ou pas pour la société, eh ben, ça bougera pas finalement. Donc c'est à vous de jouer, hein, messieurs. Je voulais quand même, on arrive quasiment à la fin, c'est comme à chaque fois, on a tellement de choses à se dire que le temps finit par nous manquer, mais j'aurais quand même voulu qu'on parle, parce que là on a des papas, et aujourd'hui le silence de certains pères, en fait c'est un poids qui pèse lourd sur les épaules de certains enfants, et je pense que c'est important qu'on s'y arrête aussi. Pourquoi certains hommes n'assument pas leur rôle de père?
Parce que c'est pas des hommes.
Facile.
Non, ah, vas-y.
N'assume pas leur. C'est souvent par. Alors, quand on dit n'assume pas leur rôle de père, ça dépend de quelles circonstances. Là encore, il faut y mettre de la nuance, parce que c'est différent lorsque le couple il est constitué, mais que le père ne fait pas son devoir. On parle de devoir. Hein. Parent, devoir. Parent égale devoir envers l'enfant, bien évidemment. Parents, devoir envers l'enfant. Je le répète, parents, devoir envers l'enfant. Non, parce que c'est important de le saisir. Maintenant, souvent, on parle de famille monoparentale, et dans le cadre de la séparation, t'en as, ça se passe bien, donc la question ne se pose pas, ils ont bien délimité les choses, mais t'en as aussi où ça se passe mal. Et souvent, dans le cas où ça se passe mal, l'homme... Je calcule pas la femme, moi tu t'es séparé de moi, ben, parce que tu t'es séparé de moi, tu vas te démerder avec les enfants.
Ouais,
on est dans l'ego. Et c'est l'ego, c'est la gestion des émotions. Ça, on en revient au même. Hein. C'est de la psychologie. Hein. On en revient au même. Et comme la Sana il dit, ben, tu parles pas d'aller voir un psy ou on est comme ça, nous. Il y en a d'autres où ça pose pas de problème. Excuse-moi. Ouais. Il y en a d'autres où ça pose pas de problème. Mais on est issu de milieux où tu dis consulter un psy égale t'es un ouf, tu vois, mais t'as vraiment un problème mental, quoi. Et c'est difficile à accepter. Moi, par exemple, dans mon cas personnel, il a fallu l'intervention d'Aïssata qui a eu cette ouverture d'esprit, qui est une autre démarche, parce que elle a cette notion de pédagogie pour me faire comprendre que consulter un psy, c'est pas spécialement parce que t'as un problème mental. C'est pas parce que t'as un ouf. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que dans la conscience collective, quand tu consultes un psy, c'est pour les oufs, ceux qui sont à l'asile, là, tu vois? Et
après, je vous propose de nous pencher sur l'absence des pères, c'est parce que finalement, il y a les pères qui restent, il y a ceux qui s'effacent, certains par choix, d'autres par douleur. Il y a des fois, c'est par échec ou par contrainte aussi. Hein. Tu parles des séparations qui peuvent se passer mal. Parce que des fois, l'absence et le silence des pères, c'est dû à une mère qui te met sous silence ou qui ne te donne pas accès. Tu vois, ça dépend. Mais en fait, derrière chaque absence, finalement, il y a souvent une histoire non dite, non expliquée. Et la société, elle juge, mais est-ce qu'elle comprend vraiment en fait, cette absence et ce silence des pères? Et j'aimerais qu'on prenne un peu plus de hauteur il n'a pas assumé ou... Mais vraiment de se dire, bah, finalement, derrière ces absences de père, tout à l'heure, vous aviez imagé par le vélo. Un vélo, il y a une roue qui crève, il y a un problème. Et du coup, cette absence des pères, elle crée un problème aussi dans l'éducation et dans l'équilibre émotionnel et des enfants. Quand il n'y a pas une coparentalité qui fait que, OK, le couple s'est éteint, mais la parentalité, c'est à vie. C'est-à-dire que ton couple, il peut arriver à bout, il s'éteint parfois, mais la parentalité, elle doit continuer à briller. On doit continuer à éduquer ces enfants-là.
C'est ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on a des enfants en charge à temps plein, à temps partiel ou occasionnellement, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui va être l'adulte de demain. Et du coup, ces enfants-là, ils partent avec un handicap parce qu'il leur manque une partie dans leur éducation de l'autre parent, que ce soit mère ou père. Et là, on est sur le père. On voit beaucoup de femmes et de jeunes femmes, de jeunes hommes, de jeunes filles qui clament haut et fort le manque de leur père. Et au-delà de l'aspect financier, la présence du père, le conseil du père, l'amour d'un père, et elles vont rechercher cela de manière inconsciente dans les bras d'un autre homme et qui n'est peut-être pas forcément le plus bienveillant. Ce qui est dommageable, et on le voit aussi aujourd'hui, et on le voit peut-être plus facilement avec les réseaux sociaux, c'est que ces jeunes gens, et je mets bien les filles et les garçons, quand tu creuses un petit peu et qu'ils ont été éduqués avec, dans une famille monoparentale, il y a des carences. Il y a des carences affectives, il y a des carences éducatives. Et à la fois, tu peux aussi rencontrer des parents et donc des pères qui ont été empêchés dans leur rôle de papa de s'en occuper, que ce soit dans le couple où ils sont encore en couple ou qui sont séparés. Et ça fait des hommes qui sont complètement meurtris. Donc, personne n'y gagne finalement. Et c'est parfois, alors on est encore un peu jeune, je vais mettre des guillemets, et parfois c'est sur le lit d'hôpital quand la personne est malade. Quand le parent est malade ou quand l'enfant est malade, qu'on se rend compte de tous les dégâts que ça a causé dans la construction des êtres, que ce soit l'enfant ou que ce soit le parent. Et on le sait, ça. On le sait tous. Peu importe d'où on vient, de notre catégorie socio-professionnelle, de là où nous nous trouvons dans le monde, on le sait tous, on l'a tous vu. On a assez, sans sortir les statistiques, les articles, les études, ou sans passer forcément par le psychologue, tu le vois. Quand on aurait un enfant là au milieu, on l'observe, on discute avec lui, on voit ce qui va lui manquer. Et à même un moment, l'enfant va te le dire. Comment vont tes parents? Je vois plus mon papa. Ça nous fait tous quelque chose. Je vois plus ma maman. Ça nous fait tous quelque chose. Et en plus, même, on va peut-être même porter un jugement quand on entend ça.
Je vais un peu secouer du côté de la Sana et Barberich en faisant un peu de provocation, mais peut-on aimer un enfant sans savoir l'éduquer? Je n'ai pas dit sans l'avoir, hein, sans savoir l'éduquer.
Peut-on aimer un enfant sans savoir l'éduquer?
Bien sûr.
C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait en off un peu de... Avoir un enfant, de façon naturelle, tu peux avoir un enfant, mais est-ce que finalement tout le monde est opérationnel et en capacité d'éduquer, d'aimer son enfant, de l'accompagner? Certains parlent de permis à point, mais
on n'accordait plus de points sur permis. Moi, je te dirais oui, je te mettrais même un petit parallèle par rapport au couple. Il y en a qui s'aiment et puis tu apprends qu'il lui tape dessus. Lui va te dire qu'il aime.
Ok, Anne.
Tu peux.
Reposer la question.
Est-ce que tu peux aimer un enfant sans savoir l'éduquer? Par exemple, donnez-nous des cas, parce que
pour moi, il y a des parents, ils sont eux-mêmes moins matures que leurs enfants.
En fait, c'est là où j'aimerais en venir. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui se comportent comme des copains copines avec leurs enfants, qui vont pas poser le cadre, qui vont pas poser les limites, etc. Ils aiment leurs enfants, mais ils les éduquent pas parce qu'il y a pas de limites,
ils savent pas faire.
Voilà. Mais du coup, c'est pour ça que je demande est-ce que l'amour et la
Mais
peut-être qu'ils sont dans la doctrine de l'enfant roi.
Oui.
Tu vois, c'est propre à chaque individu.
Mais la question, elle aurait pu être celle de Doïdi. Est-ce que le fait d'éduquer un enfant roi, c'est l'aimer, tu vois? Est-ce que tu lui rends
service? Non, mais c'est une forme d'éducation. C'est-à-dire que la personne qui le fait, elle n'a pas l'impression de faire mal.
Parce qu'une fois de plus, comme il n'y a pas d'école pour devenir parent, il n'y a pas de règles en termes d'éducation. Oui, l'éducation d'un enfant, il faut faire comme
ça. C'est-à-dire que là, on parle des enfants rois. L'enfant roi... Oui, nous qui travaillons dans l'éducation, on sait que ça peut poser quelques désagréments, mais en réalité, si moi j'ai envie de mettre bien mon enfant,
c'est ça.
Et que mon enfant, je l'ai mis bien, et que ça devient quelqu'un, tu vas me dire quoi? Parce que ça peut, et il y en a.
Il y en a.
Qui ont été gâtés, pourris, gâtés, et qui aujourd'hui... Si moi, j'ai la possibilité, par exemple, de le favoriser, je lui ouvre toutes les portes, tout est facile pour lui, et je lui déroule le tapis rouge, et il évolue comme ça, il devient adulte, et il se construit.
Qu'est-ce qui t'en empêche ?
Qu'est-ce qui t'en empêche en réalité ?
Et j'ai envie de te dire
là,
que...
Là où on parle des enfants rois...
On est dans une normalité, là, dans le schéma public.
Oui, mais on parle des enfants rois quand il y a déviance.
Exact.
Quand il y a quelque chose de négatif qui apparaît, mais en réalité. Parce que tu peux... Parce que l'enfant roi, on le met toujours sur le prisme de la négativité. Mais en réalité, moi, je sais que moi, mes enfants, chez moi, c'est les boss.
Tu fais ton devoir.
Non, mais...
Tu fais ton devoir.
Il y a d'autres personnes, au regard d'autres personnes, ouais. Comment moi j'éduque mes enfants ? Il y en a qui vont dire peut-être que mes enfants, je les laisse peut-être tout faire. Ou par exemple, moi je sais que mes enfants, en termes de vêtements, en termes de chaussures, en termes de trucs, elles ont plus qu'elles devraient avoir. Quand je dis qu'elles devraient avoir, c'est par rapport au strict minimum. C'est-à-dire que moi je suis dans quelque chose où tu vas avoir tes paires de chaussures qui vont aller avec telle tenue, tout ça.
Tout
moi,
ça, c'est tout ça.
Tu comprends ce que je veux dire ? Mais c'est pour ça que je
tout
dis
ça,
que.
C'est subjectif.
Mais c'est pour ça que je te dis que nous, on dit ouais, l'enfant roi, mais tout des. En fait, c'est une façon.
De dénigrer ?
Non, c'est une façon propre.
D'accord.
À chacun
bien sûr.
D'élever voilà. Son enfant.
Ouais. Non, mais quand je dis dénigrer, c'est que souvent, on ne dit pas l'enfant roi d'un enfant qui a tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il désire et qui répond aux attentes éducatives de la société. Je vais plus loin que les parents. C'est-à-dire un enfant qui va bien se tenir, qui travaille bien à l'école, qui ne fait pas de vagues, qui se conduit bien, qui est poli et qui, à côté de ça, a tout. On ne le désignera pas comme un enfant roi. Non. Parce que, éducativement parlant, la société part du principe que ça roule.
C'est un
quand
enfant
on dit
normal.
Enfant roi, souvent, c'est pour dénigrer un enfant, enfin en tout cas le modèle éducatif, en disant lui il a tout sauf ce qu'il faut, les règles, le cadre, etc. Donc il ne gère pas sa frustration parce qu'on lui donne tout, parce qu'à l'école par exemple la maîtresse elle n'a rien à lui échanger contre un temps de travail donc il ne travaille pas et les parents sont toujours derrière. Souvent quand on utilise ce terme-là c'est bien pour venir questionner dans le fonctionnement et l'éducation des parents quelque chose qui s'apparente plus à quelque chose de négatif.
À ce manque de cadre.
En fait, l'enfant roi, c'est celui qui socialement est très bien positionné comparé à l'enfant prolétaire, par exemple, et qui a une attitude.
Mais c'est faussé ça aujourd'hui ado. Aujourd'hui ado, t'as des enfants rois il y a des familles qui ont pas un sou, d'accord, qui sont dans la précarité plus et qui fabriquent quand même des enfants rois.
Totalement.
C'est ça.
Parce que absence de cadre, absence de limite, absence de
l'enfant a toujours
frustration.
Raison, c'est jamais lui. Tu vois, il y a beaucoup d'enfants comme ça.
Non, mais c'est pour ça que je voulais dire.
Alors attention, parce qu'il faut toujours y mettre dans ce qu'on dit, il faut toujours avoir la nuance parce que il y a pas qu'un seul cas de figure. Dans ce que je dis, il y a effectivement, il y a la nuance, il faut avoir la nuance, il y a ce qu'elle évoque, effectivement, l'enfant de prolo qui a tout, d'accord, parce que les parents se tuent à la tâche, et tu as l'enfant qui, même les parents socialement sont bien, qui a tout.
Pas
qui,
tout,
lui,
pas, mais moi je suis pas, après je vais laisser Alissata parce que je voulais rebondir, moi je suis pas d'accord avec toi, parce que tu sais, moi aujourd'hui par exemple, avec ce qu'on fait, le fait d'intervenir dans les quartiers populaires et tout sur différentes questions, il y a beaucoup d'enfants de quartiers populaires qui n'ont rien, qui sont des enfants rois.
C'est ça.
Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de petits, hein, tu vois, les petits guetteurs, les petits qui sont en décrochage scolaire et tout. Quand tu écoutes leurs parents, c'est jamais eux. Hein.
Ah oui, mais là, c'est un défaut des parents qui se remettent
en
question.
Mais c'est là où elle veut en venir. C'est pour ça que ce n'est pas une histoire de statut social.
C'est ça.
C'est pour ça qu'elle me disait, est-ce qu'ils aiment leurs enfants ? Et c'est une question d'éducation.
D'où la question, est-ce qu'on peut aimer un enfant sans l'éduquer ? Pour aller plus loin, si tu veux, c'est si on part du principe qu'être parent, c'est accompagner un être pendant un temps jusqu'à ce que lui-même fasse ses propres choix, etc. On doit répondre à ses besoins. Et du coup, l'éducation fait partie du besoin de l'enfant pour s'épanouir, pour grandir. Ma question, elle est un peu subtile. Ça veut dire que si toi, en pleine conscience, t'éduques pas et tu décides de répondre à tous les besoins, à tous les désirs de ton enfant sans poser de cadre, est-ce que du coup, c'est de l'amour ? Est-ce que t'aimes quelqu'un que t'es en train de détruire
Alors, j'ai deux cas de figure parce que...
Et je fais exprès d'être...
tout à l'heure, j'ai bien dit, hein, je l'ai répété à plusieurs reprises. Parents égale devoir envers l'enfant. Ça, c'est inéluctable. Ensuite, j'ai une image d'un film, comme Aïssata l'a fait allusion tout à l'heure, c'est encore avec Denzel Washington où...
Il est bon, il est bon.
Et il est excellent, mais il a le, il est tenu, il a un rôle de père où il doit éduquer un enfant et cet enfant il lui fait part à un moment donné, ouais mais est-ce que tu m'aimes, il dit, est-ce que
je suis Fensis, toujours le même,
est-ce que je suis obligé de t'aimer, il lui a dit, est-ce que je suis obligé de t'aimer, non, mais je suis obligé de t'éduquer, je suis obligé de te donner les armes pour que tu puisses être bien dans
cette société,
dans cette société en fait.
Ouais, il mais ça fait partie des armes.
Il a dit c'est mon devoir.
Là, il met quand même en exergue les défaillances d'un père, parce que c'est un film qui met aussi en exergue les défaillances d'un père. Ça veut dire que même quand il répond à son fils, est-ce que je suis obligé de t'aimer, non. Par contre, j'ai le devoir
de te donner les armes.
Tu vois, on pourrait faire toute une émission juste sur cette phrase-là, tu vois. Ouais.
Et on voit les dissidences que ça peut créer
chez l'enfant,
chez son fils, et dans la relation, et comment il devient, lui, homme, avec cette forme d'éducation. Moi, je voulais juste apporter...
Attends, mais vous croyez que le mec de la prod, il est encore en vie pour nous payer? Parce qu'on lui a fait une sacrée promo, là, non?
Peut-être. Juste une nuance, et là je vais mettre ma casquette pro de travailleur social, c'est-à-dire que l'enfant roi, c'est un peu ce que tu as dit, ado, mais c'est essentiellement, et c'est peu importe, et c'est pas pour rien tout à l'heure que je parlais de catégories socio-professionnelles, c'est un enfant qui a nos limites, c'est-à-dire que le parent, au nom que c'est son enfant et qu'il l'aime, il lui laisse tout faire, ce qu'il veut. Et on est face à des enfants qui n'ont zéro limite, qui ne savent pas gérer leur frustration, où on ne veut pas les brimer, on ne veut pas les oppresser, et dans tout et pour tout, au plus jeune âge. C'est-à-dire que même tout bébé, moi j'ai accompagné des familles, des couples, des familles monoparentales où ils avaient cette vision-là de « c'est mon enfant, je ne veux pas le frustrer, je ne veux pas le gronder, s'il jette par terre, ce n'est pas grave, je vais ramasser, etc. » Et l'enfant grandit comme ça, c'est ça un enfant roi. Faut bien avoir la bonne définition de ce que c'est qu'un enfant roi.
Juste avant que Anne mette les pieds dans la tasse, Lassana, je me retourne vers toi, j'aimerais te poser une question à toi d'abord, mais... pensez à vos réponses les autres. Que faudrait-il changer en fait dans les mentalités ou les institutions pour rétablir un équilibre entre les mères et les pères? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de mettre en avant les pères. Le sujet est tellement vaste que franchement on pourrait faire 10 épisodes sur le sujet. On l'a brassé de façon très large, mais on rappelle que l'idée c'est que les auditeurs à la maison se questionnent, posent des questions. Mais qu'est-ce qu'on pourrait changer dans les mentalités ou les institutions selon toi?
Mettre une table ronde, clairement. Mettre une table ronde un peu comme on fait aujourd'hui, mais que ce soit un peu plus exposé un peu partout et surtout dans différents quartiers, quoi. Aujourd'hui, tout ce qui est accompagnement, on sait que dans nos quartiers où nous on a grandi, c'est pas quelque chose de concret, voire qu'on met de côté parce que c'est pas palpable, c'est pas du direct, ça n'a pas d'importance pour nous. Mais une table ronde pour permettre à chacun déjà de pouvoir s'exprimer petit à petit, même si c'est difficile pour certaines personnes, mais leur donner cette place aussi. C'est-à-dire qu'on vous voit, on vous permet de venir, exprimez-vous.
Mmh. Edgar
J'irai un peu dans le sens de Lassana, c'est qu'il faudrait, en plus, à l'heure où c'est des émissions de format court, il faudrait plus de diffusion pour casser cette image, parce que même si on est en 2025, L'homme on reste quand même figé sur cette image que ça implique, en fait. Et bien évidemment, au niveau des quartiers, mais même dans les campagnes, l'homme, surtout dans les campagnes, tu sais, qui est le berger, c'est vraiment... voilà, vraiment, casser cette image comme quoi, ben voilà, l'homme, il est infaillible... Un homme, ça
limite, il faudrait y aller par thématique, quoi. Thématique et se laisser le temps d'approfondir les choses. Il y a tellement de...
Y aller en diffusion massive, tu sais, comme
BFM.
Exactement. Voilà.
BFM, parentalité, papa, allez, papa. Non, je rigole. Mais après, les femmes vont se plaindre.
C'est une prise de conscience à avoir, tu sais. Mmh.
Moi, pour compléter ce que disent Lassana et Edgar, effectivement, c'est mettre une table au milieu de quelque part, du village, de la cité ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on est dans un environnement urbain. On ne pense pas assez aux environnements ruraux. Les petits villages, les petits quartiers, les agriculteurs, enfin bref, les ouvriers dans les grandes usines, où là, il y a des vraies difficultés, tout autant que ce qu'on peut retrouver dans les cités, dans les quartiers. Eux, pour le coup, ils sont aussi invisibilisés par rapport à des villes ou des départements comme le 93. Et ils ont aussi des choses à dire, parce que quand on va par là-bas et qu'on voit qu'il s'y passe des choses, il y a des projecteurs qui sont rivés vers eux quand il y a des rixes, quand il y a des drames. On a vu, hein, je crois qu'il y a à peu près un an de cela, lors d'une fête dans un village, je vais dire, qu'il y a des jeunes qui ont fait une descente et qu'il y en a qui sont morts, et que les parents sont complètement désabusés parce qu'ils se disent, bah dis donc, ça s'est passé à côté de chez nous, en plein milieu de la campagne où on a des vaches, des moutons, etc., et que c'est pas dans le milieu de grandes tours. Ce sont des sujets aussi qu'il faut discuter avec eux. Voilà.
Merci, donc, Alissata. Barberiche, est-ce que tu peux répondre à la question de qu'est-ce qui pourrait faire changer les mentalités ou...
Bah déjà, ce qui ferait changer les mentalités, c'est que on segmente pas la société en deux. Hommes, femmes. Bon, maintenant, on a rajouté des genres, mais qu'on segmente pas la société en deux. Vraiment. C'est-à-dire que toutes ces questions doivent être abordées à deux.
Ensemble.
Ensemble, comme on peut le faire là aujourd'hui, où sur le plateau, il y a des hommes, il y a des femmes. On confronte nos points de vue et l'idée, c'est de faire avancer la cause. Donc, moi, c'est vraiment ça. Ma solution, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'être main dans la main plutôt que dos à dos, tout simplement. C'est quelque chose que je dis souvent.
Pour les auditeurs et pour nous aussi, on a hâte de savoir quelle est ta question. Les pieds dans la tasse, est-ce que tu te lances ?
Ouais, j'ai réfléchi à une petite question là. C'est, est-ce que l'homme capable a le droit de faire une pause sans qu'il y ait un impact sur son couple ?
Très bonne question.
C'était quoi la question ?
Alors, Lassana, il s'est lancé direct.
Mais en plus, c'est pour Lassana, il en a parlé tout à l'heure.
Pardon, répète.
C'est une question auquel on ne répondra pas forcément. Attention,
non, je ne réponds pas.
Note-la parce que tu vas pouvoir y répondre à la maison.
Est-ce qu'un homme capable a le droit de faire une pause, d'accord, dans sa capacité à tout gérer, selon le prisme du coup de la femme, sans qu'il y ait un impact sur son couple ?
Okay. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que je vous remercie d'être venu partager ce temps avec nous. J'espère qu'autour d'une deuxième tasse de thé à la maison, ça va débattre fort, puisque le sujet est de taille. Et peut-être que grâce à cet échange, les hommes aussi vont pouvoir dire ouvertement à leurs femmes ce qu'ils ont envie de leur dire et comment on peut aussi avoir besoin d'une pause et que la charge mentale des hommes existe. Poursuivez vos échanges à la maison. On remercie Mon Paris FM de nous accueillir comme toujours. Un mot de la fin, les invités.
Merci pour cette invitation. Ce fut très intéressant, très enrichissant. Et qu'on puisse vraiment faire évoluer, faire changer les choses de manière positive. Aussi bien pour les familles, pour la structure familiale, pour les mentalités, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.
Merci Edgar. Alissata ?
Merci une fois de plus pour cette invitation. Un plateau d'exception avec des hommes d'exception que j'aurai plaisir à débattre en dehors de ce cadre. Et Edgar, je crois que tu as raison. Élevons-nous et brisons les tabous. Ça ne fait pas de nous et de vous, les hommes, des hommes incapables.
Par Boris ?
Ouais, moi, je dis qu'il faut arrêter avec ce terme homme capable. C'est le couple qui doit être capable.
La Sana.
Merci à tonton Barberich, il a raison.
Avant de nous quitter, quelques chiffres clés. Une famille sur quatre est monoparentale selon l'INSEE. 83% sont dirigés par des mères, mais il y a quand même 17% des pères qui sont en situation de famille monoparentale. 12% des enfants vivent dans une famille recomposée. 64% des pères actifs estiment manquer de temps pour leurs enfants. Ça, c'est une source du ministère des Solidarités. Un père sur cinq se dit en souffrance émotionnelle liée à la pression familiale. Ça, c'est le baromètre de la parentalité qui le dit. 72% des mères estiment que les pères sont encore peu soutenus dans leur rôle parental. Étude IFOP. Comme quoi, c'est un vrai sujet. Et il y a besoin de créer des espaces et d'avoir aussi des temps d'audition qui soient dédiés aux pères. En tout cas, tout ce qu'on voulait dire, c'est que ce débat n'a pas vocation à juger, mais à comprendre. Derrière chaque père, il y a un homme et une histoire, une blessure et une envie de bien faire. Merci à nos invités pour leur sincérité. Merci de nous donner de la force, comme toujours. Merci à nos auditeurs pour l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner. Et merci à Mon Paris FM. À bientôt. Ciao.